Cette portion de la parole de Dieu est enregistrée et distribuée par l'Église, grâce et vérité. Jésus promet à ses disciples, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Nous prions que vous soyez bénis et rendus libres par notre Seigneur Jésus-Christ au moyen de ce message. Bonne écoute!
Yes. Ma fille a fait une demande spéciale. Elle a dit, « Je peux-tu avoir une table le dimanche matin? Parce que moi, quand je prends des notes, je suis plus concentré. » Fait qu'elle a dit, « On monte une table pour toi. » C'est OK, hein? Ah oui, elle a du push en crime. Super. Oui, bien sûr. Parle-nous, justement, ouais, qu'est-ce qui en était de ces shoebox-là? Donc, Eric, cette année, a été notre représentant pour envoyer des boîtes. Avec Victoria, pour envoyer des boîtes. Si tu en parles. Merci beaucoup. Gloire à Dieu. Est-ce que tout le monde a sa place? Yes. On est prêt. Fait que moi, ça va me prendre juste la manette hein, pour mes PowerPoint. OK. Donc, récemment, j'ai parlé, je fais une série, on est rendu à peu près à 8 messages sur... faire des disciples en 2018 ou être un disciple de Jésus-Christ en 2018. Et puis, je ne peux pas faire ce sujet-là parce que c'est un point dans notre société qui nous a affectés. On a été transformés par la société, plus que nous, on transforme la société dans l'aspect de l'hospitalité. La semaine passée, ou il y a 3 semaines, quand j'ai fait mon message précédent, j'ai répondu à la question « Pourquoi l'Église moderne a perdu de son sel? » Venez vous asseoir, on a 2 places pour vous ici. Ils ne veulent pas être dans la vidéo. Il y en a-tu que ça ne leur dérange pas? On va leur faire une place à la table. Parce que mon message, c'est justement une place à la table pour tout le monde. Il y en a-tu 2 qui ça ne leur dérange pas d'être plus proche de moi? Je ne vous ferai pas parler. Vous n'êtes pas obligé de donner une offrande supplémentaire pour être assis près de moi. Fait qu'on se fait petit, on se tasse par ici un peu. Tu ne seras pas dans la vidéo. Non, OK, je comprends. OK, super. Les gars, ils se font tout petits. Sylvain, mais c'est pas dur pour lui. C'est une blague. OK. Super. Donc, l'Église, pourquoi l'Église a perdu de son sel? Puis, dans mon dernier message, on a vu qu'on était rendu dans une société qui gravite beaucoup autour de l'individualisme. Puis, il veut consommer. Il veut obtenir des choses pour son propre bien, son propre confort. Puis que le consumérisme, c'était à quelque part trouver un sens, une identité ou un remplacement pour mon vide dans quelque chose que je pourrais consommer. Une vacance, un service, un produit. Les gens n'achètent pas du savon à linge, ils achètent du Tide. Parce que les gens sont abonnés à des marques. On est abonnés, on appartient. Il y a des sentiments d'appartenance à des marques et à des produits. Donc, si une église aujourd'hui offre des services, du divertissement, et l'homme est prêt à payer avec son déplacement et avec ses offrandes un service en échange, on a développé chez le chrétien une pensée consumériste, c'est-à-dire, est-ce que j'en ai pour mon argent? On a vu dans mon dernier message que le disciple donne au Seigneur, le consommateur achète un service. Et en tant que disciple de Jésus-Christ, on doit grandir dans cet aspect-là de devenir, pas une église, avoir une église pour moi, mais moi pour l'église. Et aujourd'hui, donc, c'est un thème qui va un peu se rapprocher de ça. Parce que l'église, c'est plus qu'un service qu'on reçoit ou un produit qu'on consomme. Ce matin, c'est vrai que je suis venu parce que j'en ai besoin. Mais je suis venu aussi parce que j'appartiens à une famille. Et donc, on est une famille et c'est peut-être la meilleure représentation de la famille dans le monde aujourd'hui. Notre définition de la famille, depuis à peu près 200 ans, elle a changé drastiquement. Dans mon message, on va voir pourquoi est-ce que cette définition-là a changé dans les 200 dernières années beaucoup. On va commencer avec un verset. La lettre aux Éphésiens nous montre vraiment qu'on fait partie d'une nouvelle famille. OK. Et je vais le lire ensemble. vous étiez en ce temps-là, moi je vais la mettre ici pour ceux qui... Vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés, car par lui nous avons les uns les autres un accès auprès du Père, dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Partout dans la lettre aux Éphésiens, on voit qu'on est dans une nouvelle famille. Et donc, chez moi, c'est chez toi, ou comme diraient les Espagnols, mi casa et tu casa. C'est-tu bien dit ça? Je l'ai-tu bien prononcé? Mi casa et tu casa. Et donc, il y a des cultures aujourd'hui qui sont plus proches de la définition biblique de la famille que les Nord-Américains. Nous autres, la famille, c'est un endroit où on va se réfugier parce qu'on est dans un monde de fous. C'est comme appel avant de venir. Mais chez Victoria et Eric, c'est si tu passes par Richelieu, viens au moins souper. Tu sais, au moins, tu sais. À la limite, appelle pas avant de venir, fais juste venir, tu sais. Et donc, il y a des cultures, les cultures latines, par exemple, Moyen-Orient, Libanais, les Libanais, je veux dire. Si tu veux faire plaisir à un nouvel arrivant qui arrive au Canada, dis-lui que tu vas aller manger chez eux. Tu fais pas ça qu'un Canadien, par exemple. Tu sais. Mais un nouvel arrivant, souvent comme les Libanais ou les Mexicains, c'est comme ils te font connaître le plaisir de manger, puis ils t'offrent de la compagnie en plus. Et donc, aujourd'hui, je vais parler de cette hospitalité. Dans le Nouveau Testament, donnez-moi des exemples d'hospitalité. Je vais répéter, faites des courtes phrases. Lazare, Marthe et Marie et Lazare, donc c'est la place où Jésus allait squatter. Quand il allait proche de Jérusalem, c'était à 5 milles de Jérusalem, fait que Jésus, quand il allait à Jérusalem, il squattait à cette maison-là. Fait qu'on voit plein d'histoires qui se passent dans la maison de Lazare, Marthe et Marie. Très bon exemple. Probablement même que cette famille-là a été trouvée lorsque les disciples allaient deux par deux pour aller chercher de l'hospitalité d'avance, pour que quand Jésus était pour faire toutes les tournées en Judée et aussi dans le nord, il y aurait des maisons pour le recevoir. Marie faisait partie avec Marthe et son frère Lazare, une des maisons qui avait reçu les évangélistes, puis qu'ils ont dit, hey, quand Jésus va venir, je veux qu'il vienne aussi dans ma maison. D'autres exemples. Ah, ça c'est dans l'Ancien Testament. Et c'est avec le prophète Élisée, mais dans toute la Bible. C'est un bon exemple de choisir des exemples dans toute la Bible. Oui, cette femme-là qui, un jour, a dû faire du pain pour le prophète, je pense. Hein? OK, attends. OK. OK, donc la veuve, dans le fond, on l'appelle la veuve de Sarepta, qui avait un petit peu de farine et un petit peu d'huile. Et le prophète est venu, puis il a dit « Fais-moi du pain ». Puis là, finalement, ça a été multiplié, cette affaire. Des bons exemples d'hospitalité dans la Bible à part ça. Oui? Zachée. Ça a été un endroit de ministère. Je veux dire, ce souper-là a changé la vie de Zachée. Il a passé, Jésus a dit « M'en va manger chez vous ». Pourtant, c'était le contraire. C'est pas Jésus qui recevait, c'était l'autre qui recevait. D'autres exemples? Là, tu as reçu deux des anges, puis le livre d'Hébreu, dans Hébreu 13, dit « Exercez l'hospitalité, car sait-on si vous ne recevrez pas des anges? » Puis là, tu avais reçu à manger. Ils avaient reçu chez eux. Puis finalement, c'était des anges qui avaient reçu chez eux. Il y en a un des trois, c'était l'ange de l'Éternel. Il était resté avec Abraham. Il était trois qui s'étaient présentés à Abraham. Puis Abraham aussi, la réaction, ça a été « Hey, partez pas avant que je vous ai fait à manger. » C'est fort. Tu dis ça dans la Bible, c'est fort. Tu dis crème, c'est pas des Canadiens, là, tu sais, en règle générale. Je dis ça, mais tu sais, je veux dire, l'autre jour, on est allé, Steph et moi, on est allé à Toronto, puis quand on est revenu, Sylvie et Sylvain insistaient pour qu'on puisse s'arrêter manger. Mais je dis, ouais, on va arriver à 7h30 du soir. C'est pas grave. Mais là, je dis, je pense que je fais de l'intolérance au lactose. Là, je sais pas si c'était, gluten aussi. Fait que là, c'est cassé à la tête pour nous préparer quelque chose. Je pense qu'il n'y a pas du temps là-dedans. Puis là, ben là, oubliez ça. Là. Je prends du lait, puis je prends du gluten à cette heure. Fait que si jamais vous venez nous recevoir. Mais c'était cassé le bicycle pour nous recevoir, même si on y était tard, puis tout. Puis moi, j'étais plus du genre, regarde, on ne veut pas les rendre. ça. T'sais. OK. Donc, Jésus nous promet qu'il va, dans la maison de son père, il y a pas mal de place, puis qu'il va aller nous préparer une place, puis quand elle va être prête, cette place-là, il va revenir nous chercher, puis il va nous prendre avec lui. Fait que la bonne nouvelle de Jésus-Christ, c'est il y a de la place pour toi, je te prépare une place au ciel, puis on va habiter ensemble à un moment donné. Fait que tout est basé sur l'hospitalité du début à la fin. La bonne nouvelle, c'est que dans la maison du Père, le croyant va avoir une place pour lui. L'hospitalité, ce que ça dit, c'est il y a une place pour toi. Et donc, dans la Bible, l'hospitalité était quelque chose qui était nécessaire. Donc, le titre de mon message, c'est « Créer des marges pour l'hospitalité ». Puis, dans le fond, mon message va être basé sur trois choses. On va regarder les bases bibliques de l'hospitalité, ce que la société est devenue. On va s'arrêter et on va faire un portrait d'image de où est-ce qu'on est. Pourquoi? Ma série, elle est une critique sur l'Église contemporaine, puis sur comment est-ce que c'est nous qui avons influencé le monde, ou bien non, c'est le monde qui nous a influencés. Et donc, on doit voir dans quelle société est-ce qu'on vit présentement. Si on veut, comme Paul dit, ne soyez pas comme le monde, mais soyez renouvelés dans l'intelligence pour être différents, pour être transformés dans Romains 12. Bien, à quelque part, faut. Un poisson, il ne se pose pas la question s'il est dans l'eau, puis un oiseau ne se pose pas de question s'il est dans l'air. Mais le chrétien, il n'est pas de ce monde, puis il doit se poser la question dans quel monde, qu'est-ce que je vis pour agir différemment. Puis, on va essayer de voir comment est-ce qu'on pourrait reconquérir l'art perdu de l'hospitalité. Donc, dans le Nouveau Testament, on a, si on marche vers le nord, à notre droite, on a des montagnes et très peu d'eau. Il y a un désert aride dans le milieu. Puis à gauche, c'est quoi donc? J'ai dit à l'ouest, c'est un désert aride. À droite, ce sont des montagnes avec peu d'eau et des températures torrides à longueur d'année. Ça veut dire qu'on va suer dans le trajet. Ça va sentir. Puis, c'était donc un devoir sacré d'exercer l'hospitalité envers quelqu'un qui en avait besoin, qui voyageait du nord au sud, du sud au nord, peu importe. Qu'est-ce que consistait l'hospitalité dans la culture du Nouveau Testament? C'était offrir la possibilité à nos invités de se laver les pieds, leur offrir de l'huile parfumée pour masquer l'odeur du voyage. C'était aussi... Oups! J'essaie de voir ici pourquoi que ça ne change pas. Là. C'était aussi de leur offrir de la nourriture. Il faut que je me vise sur deux tableaux. De leur offrir de la nourriture, la sécurité d'un gîte et aussi de la compagnie, de la camaraderie. Lot, c'est un bon exemple de ça. Lot, lorsqu'il avait hébergé, les anges ont cogné à sa porte et on lui demandait de livrer les invités. Pourquoi? Parce qu'ils étaient sous un refuge. Il y a plusieurs histoires dans la Bible comme ça où tu voyais que la personne, quand elle était chez l'autre, elle était sous sa protection. Elle avait donc les privilèges et les droits dans cette maison-là. Beaucoup dans le Nouveau Testament, la mission se passe à cause de l'hospitalité. Tu enlèves l'hospitalité, tu enlèves la mission. Puis on peut se poser la question, est-ce que ça pourrait être vrai que dans 2018, il n'y a pas beaucoup de formation de disciples, puis il n'y a pas beaucoup de... l'Évangile a perdu de sa force parce que l'hospitalité perd de sa place. Puis je pense que oui, d'une certaine manière. Quand les disciples ont été envoyés deux par deux pour aller préparer la mission de notre Seigneur, ils devaient regarder si les gens étaient prêts à les accueillir, puis si on les accueillait, soit pas difficile sa bouffe, puis comme je cherche pas un menu. Prends ce qu'on va t'offrir, puis si tu embarques dans le lit puis que ça fait un sandwich comme ça, ben demeure là où ce qu'on te reçoit. T'sais, de ne pas être difficile sur l'hospitalité, mais si on te reçoit, on veut aussi recevoir ton message. Ça va être vrai aussi dans la dernière génération, dans les grandes tribulations, quand les Juifs vont parcourir le monde, ils vont être traqués, ils vont être persécutés, puis les nations qui vont avoir fait attention au peuple juif, puis les gens qui vont les avoir visités en prison, donner à manger, Jésus va leur dire « Vous m'avez donné à manger, j'avais faim. Vous m'avez reçu dans vos maisons, etc. » Et les gens vont dire « Mais quand est-ce qu'on t'a vu avoir faim? Quand est-ce qu'on t'a vu... » Il dit « À chaque fois que vous l'avez fait au plus petit de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Donc, ces gens-là qui, dans la grande tribulation, vont voir les Juifs, vont les cacher chez eux, qui vont en prendre soin. Pour Dieu, ça va être une démonstration de leur foi qu'ils ont non seulement accueilli le messager, mais ils ont aussi accueilli le message du messager. Donc, quand Paul était prédicateur itinérant, à un moment donné, il était sur le bord d'une plage, puis il y a une femme qui s'appelle Lydie. c'est écrit que le Seigneur a ouvert son cœur pour qu'elle s'attache à ce que disait Paul, puis qu'elle croie à ce que Paul disait. Et puis, il se trouve qu'elle dit, hey, il est dans la maison. Il est dans la maison. On va parler de la maison. La maison, c'était pas moi, ma femme, puis mes enfants. C'était beaucoup plus que ça dans le Nouveau Testament, ma maison. Mais Lydie l'a reçu dans sa maison, puis les gens ils ont écouté la parole. Puis quelques jours plus tard, Paul et Silas, dans Acte 16, ça se passe, les deux histoires, Paul et Silas se font emprisonner. Puis à un moment donné, au milieu de la nuit, les chaînes sont enlevées, les portes sont ouvertes, tous les prisonniers sont encore là. Le geôlier, le gars de la prison, il veut juste s'enlever la vie parce que lui, il est garde au prix de sa vie. S'il laisse aller, je veux dire, ça veut dire qu'il les a laissés aller, il va mourir. Fait que là, il a peur, tu sais, puis il dit, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais être sauvé? Lui, il pensait probablement être sauvé des conséquences, mais Paul a utilisé cette occasion-là pour dire, ben gros Seigneur, tu vas être sauvé, toi et toute ta famille. Fait qu'ils les ont fait, il a dit, hey, venez à la maison. Fait que pendant la nuit, ils ont réveillé tout le monde a accepté le Seigneur, ils ont mangé une bonne bouffe. Le gars, il a soigné les plaies de Paul puis Silas, tout ça. Puis le lendemain, l'histoire continue. Mais encore une fois, il y a eu un manger. Il se passe beaucoup de choses quand il y a de la bouffe sur la table. Il y a des choses, il y a des discussions que quand on est à table dans une maison de quelqu'un ou dans notre maison, il y a un climat de confiance qui s'installe, puis on dirait qu'on mérite le droit de parler de choses plus personnelles, puis c'est beaucoup plus, ça interpelle beaucoup plus une personne quand on est un à un ou un petit groupe de personnes, de moins de 8 par exemple, que lorsqu'on est juste dans une salle, puis que « preach, parle tant que tu veux », je ne vais pas nécessairement changer. Mais dans le 1 à 1, dans le 4 à 5, 6, 7, 8, 9 personnes, il y a des vies qui sont transformées, il y a des vies qui sont touchées, puis il faut considérer l'hospitalité comme un moyen de faire le ministère. Le manque d'hospitalité empêchait les gens de faire le ministère. Jésus disait, si ils ne vous reçoivent pas dans les maisons, allez ailleurs. Allez au milieu du village, hein. Secouez les semelles de votre soulier, puis allez dans un autre village où ce qu'on voudra vous recevoir. Jean, dans 3 Jean 9, il dit à Diotrephe, qui aime être le premier dans l'Église, ne reçoit pas les serviteurs qu'on vous envoie, puis en plus, il empêche ceux qui voudraient le faire de recevoir. Donc, dans l'hospitalité qui était empêchée, bien, ça faisait que les serviteurs de Dieu venaient pour faire du ministère dans les maisons, puis ça leur était empêché. L'hospitalité, c'est un double tranchant aussi, vu que quand on est un petit groupe de personnes, on s'influence beaucoup. Ben, Timothée, il disait, fais attention aux jeunes veuves qui se promènent de maison en maison, elles sont oisives, puis elles parlent des choses qu'il ne faut pas parler, puis qu'il y a du racontage qui se fait. Encore une fois, c'est toujours dans les maisons que ça se passe, on mange un repas, donc c'est un endroit d'influence, et ça peut être un endroit vraiment où on a vraiment un impact les uns sur les autres. Et c'est pour ça que j'aime faire des réunions du mercredi dans les maisons. J'aime ça faire aller dans les cours bibliques, dans les maisons aussi. Parce que c'est un endroit, justement, d'intimité. C'est un endroit d'importance pour notre Seigneur, je pense. Vous savez que dans les églises de Laodicée, il y a une des églises que Jésus est en dehors. Dans les églises de l'Apocalypse, dans Apocalypse 3, l'église de Laodicée, Jésus est dehors, puis il frappe. Excusez, pourrais-tu rentrer? Puis cette église-là, elle est riche. Elle a plein de programmes. Là. Elle a plein, ça marche, son affaire. Puis Jésus lui dit, tu es riche. Et tu n'as besoin de rien. Tellement que Jésus est en dehors et dit, on peut-tu souper ensemble? Pourrais-tu juste avoir une communion ensemble? Donc imaginez Jésus qui frappe à la porte de son église et cherche l'hospitalité. Quand est-ce qu'on t'a vu avoir faim, Jésus? Ben, j'avais faim, mais tu ne m'as pas reçu. Puis là, ici, c'est pas, hey, sentons-nous coupables. Okay? C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est, une église peut être riche en programmes, offrir beaucoup de services, mais pas de communion dans le 1 à 1 ou dans l'amitié. Okay? Et ça, il faut regarder qu'est-ce que notre Seigneur veut pour l'église dans tous les temps, depuis l'ère de l'église. Là. Il y a plusieurs vies qui ont été touchées pendant un repas. Vous en avez nommé un, Zachée. Il y en a d'autres, le fils prodigue. Le père a dit, allez chercher le veau gras. Ça veut dire qu'il l'avait engraissé, puis il attendait le bon moment, que quand son fils reviendrait à la maison, il ferait la fête. Donc, appelez tout le monde, faites la fête. Mon fils qui était mort, il était mort, puis là, il a été ressuscité, il est revenu à la vie. Une femme, à un moment donné, arrive dans un repas, puis c'était dans la maison de Simon le pharisien, puis Jésus va dire à Simon, « Hey, depuis que je t'ai arrivé, tu ne m'as pas donné de l'eau pour laver mes pieds. Tu ne m'as pas donné d'huile pour oindre mon corps. » Et cette femme a lavé mes pieds avec ses larmes. Donc, Jésus faisait un reproche à Simon le pharisien qui aimait avoir des tables d'honneur puis d'avoir des repas avec des dignitaires puis tout ça, mais il n'avait même pas lavé les pieds de son invité. Hein. Mais il y a une femme, elle, qui lave elle, une prostituée. Hein. Quand on dit, on voit pécheresse ou femme de mauvaise vie, c'était des prostituées ou des publicains quand c'était, on les appelait les pécheurs aussi. C'est une manière plus propre de le dire, peut-être, dans ce temps-là. Marthe et Marie, tu en as parlé aussi. C'est la place où Jésus allait quand il allait proche de Jérusalem. Puis, c'était un temps où il y avait l'apprentissage qui se faisait. Il y avait des réprimandes qui se passaient aussi. Il y avait tellement un climat de confiance que Jésus disait, écoute, Marie a choisi la bonne part. Toi, tu t'affoles ben trop pour toutes sortes de choses. Là, une seule chose est nécessaire, c'est d'écouter la parole. Tu sais. Mais c'est un endroit d'enseignement, c'est un endroit de correction aussi, c'est un endroit pour faire des disciples. C'est un endroit où il y a une confiance qui s'est installée, puis Jésus se sent assez à l'aise pour dire à Marthe, « Faut que tu t'enlignes, tu n'es pas bien aligné. Ton axe de rotation est décentré, puis à chaque fois que tu fais quelque chose, tu t'es tiraillé par beaucoup trop de détails. » On voit quoi? Marthe est assise. Plus tard, dans deux chapitres après, dans l'Évangile de Jean, c'est écrit, « Jésus était assis avec Lazare, Marie était là qui écoutait et Marthe qui servait. » Puis là, il n'y avait pas de problème. Jésus avait parlé, puis les choses s'étaient réparées. Donc, c'est un endroit d'entraînement dans un petit cercle aussi. Quand Jésus parle du royaume, puis qu'il veut vraiment montrer comment ça va être glorieux d'être ensemble, il met une table, puis il met de la bouffe dessus. Il parle de la parabole d'un grand dîner dans Matthieu 22, dans Luc 14. Matthieu 22, c'est de 1 à 10, puis dans Luc 14, c'est du verset 15 à verset 24. C'est pour ça que j'ai mis une table aujourd'hui. Il nous parle d'un banquet pour montrer comment, autour de la table, les gens sont heureux d'être dans sa présence, dans Luc 22, 30. Quand Jésus nous parle des remises de récompenses, on n'entend presque pas parler des récompenses, mais on voit vraiment beaucoup le côté noce, célébration, les amis de l'époux, énormément de paraboles sur un grand repas, un grand festin. La célébration du mariage entre l'Église et Jésus-Christ dans Apocalypse 19:9 nous montre que la bonne nouvelle est autour de « il y a une place pour toi à la table ». OK. Donc ça, c'est super important. Et on met ça dans notre tête parce que le message que ma vie doit envoyer aux autres, c'est « il y a de la place pour toi à ma table ». À sa table, donc à ma table. Parce que je suis nécessairement un ambassadeur. Là, vous dites, je ne sais pas cuisiner. OK, on va régler ça tantôt. Il n'y a pas de place, moi, à ma table. J'ai juste deux chaises. Puis sur l'autre chaise, j'ai mis mon vieil aspirateur. Je n'ai pas d'autre place pour ma mère. C'est pas grave. Le mot accueil veut dire accueillez-vous comme Christ vous a accueilli. Le mot, le verset. C'est où ça, ce verset? C'est dans la Bible. Dans la Bible, ça dit, hey, si tu fais ça, hein? Romains 15, 7. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Proslambano, ça veut dire accueillir dans l'accueil d'un autre. Ou dans proslambano, accueillir dans l'accueil d'un autre. C'est admettre dans l'amitié ou dans l'hospitalité. Vous savez qu'il y a des gens qui sont dans des foyers de personnes âgées, puis ça fait 15 ans qu'il n'y a pas une famille qui est allée les voir. Peut-être que accueillir quelqu'un dans l'amitié, c'est d'être juste là. D'aller juste voir, puis faire jaser. Faites-la jaser sur son enfance. Si on a perdu mémoire, c'est toujours sur le court terme. Jamais sur leurs vieilles histoires. OK? Ça veut dire accueillir les autres dans l'amitié. Donc, c'est pas obligé que ce soit ta maison l'accueil là, dans mon message. J'en viens ici. OK. Une petite citation ici d'un auteur qui influence beaucoup puis qui m'amène à moi à sortir complètement de ma zone de confort, c'est Alan Hirsch, qui a été conférencier quand vous m'avez envoyé à Toronto en avril dernier. Il était conférencier pour nous là-bas, pour les pasteurs là-bas. Puis il m'a fait beaucoup réfléchir, puis j'ai acheté son livre, un livre qui s'appelle Untamed. C'est un livre sur la formation de disciples que je traduis, puis que dans le fond j'applique en partie les principes. Il dit « Nous croyons que la raison principale de notre manque d'hospitalité envers l'étranger réside dans la redéfinition moderne que nous donnons au fait d'être une famille. » Dans la Bible, la définition de la maison, ici je le mets sur un dessin, la définition d'une maison, une maisonnée dans la Bible, lorsque c'est écrit « Lydie l'invita dans sa maison et tous crurent et furent baptisés. » OK? Vous aviez la flèche en avant, ça se trouve être l'entrée par la rue. Donc, on a des maisons comme ça. Imaginez des blocs, ça c'est vu par le côté. Donc, on regarde ça de côté. Qu'est-ce qu'on voit? Au premier niveau, on voit une cour intérieure qu'on va voir d'une façon plus par le haut. Mais on voit que la cuisine puis les activités là, du groupe, parce que la maison, ce n'était pas seulement parents, frères, sœurs. C'était grands-parents, amis, ouvriers, esclaves. Okay. On ne parlera pas d'esclavage aujourd'hui. Mais il y avait les serviteurs, il y avait les ouvriers, puis il y avait une partie de la business familiale qui était aussi souvent rattachée à la maison, dans ce qu'on faisait. Business ou transaction, donc on transigeait avec les voisins aussi, tout ça. Donc si on regarde ça d'en haut, ça ressemble à ça. Les maisons, ça c'est dans l'Empire gréco-romain. Dans le fond, on a une mezzanine, puis les chambres sont là, dans la partie supérieure et avec un regard sur la cour qui est en bas ici. Donc, les activités, quand on dit la chambre haute, quand les disciples se sont rencontrés puis ils ont été dans la chambre haute, c'était des pièces souvent pour le dodo, mais c'était des pièces donc qui étaient plus dans la partie élevée de la maison. Donc, si vous avez ces unités-là qui sont une à côté de l'autre, ça devient un petit peu une place publique, si on peut dire, une place où on mange ensemble. Des fois, on mangeait chez le voisin, à la limite. Là, il y avait comme cette idée-là aussi. Donc, il y avait une vision plus large de la maisonnée. Les gens, je vais lire quelque chose, je vais traduire en même temps. Il disait, les gens, maintenant, Alan a dit, les gens, maintenant, travaillent toute la journée et poursuivent une vision matérielle d'avoir une bonne vie que le marketing leur vend et leur maison devient est remplie de... des appareils ménagers, là, des choses qui rendent la vie facile, comment on pourrait dire ça? Des accessoires, peu importe, qui rendent la vie plus facile et ils sont aliénés des autres relations. Donc, on s'en va dans le monde, on travaille, on est deux à travailler, on ramène notre argent ensemble pour s'acheter des instruments de notre confort pour se reposer de notre journée. Et ces instruments-là, dans le Black Friday, la fin de semaine du Black Friday, les gens dépensaient en moyenne par individu en Amérique du Nord, en tout cas au Canada, 340 ou 380 par personne. Ça veut dire que si on est une famille de quatre, on a dépensé en moyenne 1400-1600. Ma femme m'a regardé lundi, puis elle dit, « C'est passé, elle dit, t'as-tu acheté quelque chose, toi? » Je dis, « Non, toi. » Elle dit, « Moi non plus. » OK, c'est passé. Comme si c'était une fièvre qui passait, puis c'était comme, t'es-tu tombé dans le panneau, finalement? C'est tellement drôle, tu sais. Donc, aujourd'hui, le sociologue Christopher Lash appelle la maison, maintenant, notre refuge dans un monde sans cœur. Un refuge dans un monde sans cœur, et ça vient de l'ère industrielle. J'en ai souvent parlé, fait que c'est pas quelque chose que j'ai besoin de bien regarder mes notes pour ça. Vous vous rappelez, il y a quelques années, j'ai fait un message sur la fête des mères, puis on avait parlé de l'ère industrielle, puis qu'est-ce que ça avait changé dans notre société. Avant, on avait chacun un métier, puis on le transférait à notre fils ou à notre fille. Puis notre femme l'apprenait aussi, puis ma femme l'apprenait, puis si jamais je mourais, elle devenait une veuve avec un métier. Grosso modo, c'était comme ça qu'on supportait le noyau familial. Toi, tu faisais des chandelles, elle faisait des courtes pointes, puis chacun, comme au village québécois d'antan, on avait l'apothicaire du village pour écraser pétales de fleurs pour nous faire des aspirines. On se débrouillait avec les moyens du bord, puis on avait besoin, surtout on avait besoin des gens du village. On avait besoin des gens du village. Je veux qu'on retienne ça. C'était plus le modèle biblique. C'était un modèle qui était plus basé sur l'interdépendance des autres humains. Puis c'est comme ça que l'Évangile est appelé à se répandre. C'est-à-dire qu'on a besoin les uns des autres, puis en passant, la fleur de farine que tu as écrasée pour faire des aspirines, on transigeait ensemble comme ça. Puis, comment va ta femme? Tu sais? Puis là, on pouvait parler, puis là, on pouvait prier, on pouvait partager, on avait des interactions. Tu sais, dans le temps qu'on avait des interactions. C'est une blague. Hein? Des interactions, c'est quand deux humains se parlent pour de vrai. Là est arrivée cette idée que lui voulait faire plus de chandelles, puis elle plus de courtepointe. Fait qu'est-ce qui est arrivé? On a parti des usines à faire des chandelles, une usine à faire de la laine plus en masse. Au lieu de tourner le fil là, à la main, on a des tricoteuses qui font ça et tout. Là, on a commencé à dire, on pourrait en faire plus, on pourrait en faire plus. Puis avant, il y avait un spécialiste dans le village pour chaque chose, mais à un moment donné, il y avait des villages qu'il y avait plus, les chandelles étaient meilleures dans l'autre village. Fait que là, il y a une compétition de villages à savoir lequel qui fait. Puis là, à un moment donné, on dit, ben, regarde, on ne peut pas se battre. Là. Je veux dire, regarde, ils rentrent le matin à 8 h, ils ressortent à 5 h le soir, puis il y a une machine qui le fait pour eux autres. Ouais, mais ça coûte tant, ça coûte 500 $ c'est 5 ans de salaire. Là, fait qu'ils disaient, on ne peut pas se payer ça. Fait qu'est-ce qu'ils disaient? Ils crevaient avec ses chandelles, puis ils allaient travailler pour ceux qui faisaient de la laine. Puis là, maintenant, est arrivée cette compétition en village, puis après ça, la compétition en internationale. Puis là, on est vraiment dans la compétition internationale. Puis les grands magasins présentement, là, aux États-Unis, j'ai lu un article sur LinkedIn cette semaine. Pour faire revivre les grandes surfaces, qu'est-ce qu'ils font? Ils créent une société dedans. Fait que là, ce qu'ils font, c'est qu'ils font des méga centres d'achat condos intégrés. Fait que là, tu marches, puis ils font des simili-rues. Il y a des ruelles là-dedans, mon ami, mais c'est un gros bâtiment. Tu n'as pas besoin de sortir de chez vous. Tu as le coiffeur. Tu peux aller chercher ton pain en dessous de la baguette, là, tu sais, pour y donner. Ouais, la baguette en dessous du bras, ouais, c'est ça, tu sais, tu peux y donner chaleur et odeur, tu sais. Fait que, enfin, plus de pain en tranche, tu sais. Des choses fraîches, le fromager qui est là, puis tout. Ils sont en train de recréer des écosystèmes pour, comment? Ça ressemble à quoi, ça? Ça ressemble à qu'est-ce qu'on avait tendance à avoir, tu sais. Mais, bon. Hein? Mais non, justement, les gens, il y a une certaine. Moi, je trouve que ça se rapproche un petit peu plus d'une écologie, d'une économie qui serait plus comme. Mais anyway, je suis en train de complètement digresser de mon sujet parce que là, je suis en train de faire des preuves à l'inverse. Bon. Donc. OK. Il y a aussi le privé puis le public. Ça, là, ça nous fait mal beaucoup. Depuis qu'on a envoyé les gars à shop, les femmes sont devenues propriétaires du privé, les hommes ont été sur la place publique. À un moment donné, il y a une révolte dans les années 60, on a dit, hey, la femme a dit, pourquoi ce serait l'homme qui irait sur le marché, puis moi, je n'irais pas. Fait que là, on est devenu avoir les deux qui travaillaient. Hein. Mais il y a toujours cet espace privé et public-là qui fait beaucoup de mal à l'Église parce qu'on dit, hey, sais-tu quoi, ta foi, garde-la pour chez vous. Puis la place publique, c'est la place de la neutralité, OK? Mais qu'est-ce que ça fait, par exemple, chez le chrétien? Puis là où ce qu'on a été impacté comme chrétien, c'est bien, la foi publique, c'est à l'Église, puis chez nous, je fais ce que je veux. Puis là, ça fait un détachement entre le sacré et le commun, si on peut dire. Puis on a laissé le sacré à l'Église. Puis on a désacralisé le lieu privé. On s'est fait avoir là, quand on a fait ça. Non, ma maison, c'est un endroit pour connaître Dieu. Apprendre à le connaître et faire connaître Dieu aussi dans l'hospitalité de ma maison. T'sais. OK. Ça, c'est le privé puis le public. Ça a fait une grosse scission depuis 200 ans à ce niveau-là. L'Église est devenue le lieu du ministère, la maison, l'endroit où ce que je fais ce que je veux. Alan est dit, la plupart d'entre nous servons à l'Église, donnons de l'argent aux pauvres. Peut-être même on va dans des voyages missionnaires, mais quand ça vient à la mission, à la maison, ramener la mission à la maison, on refuse. Plus que ça, nous voyons notre espace personnel comme ne devant pas être interrompu. Après tout, la maison n'est-elle pas mon domaine, le domaine de la famille? Est-ce que ça appartient pas à la famille? Il y a quelqu'un, à un moment donné, il y avait besoin que je l'appelle parce que je devais, dans mon rôle, l'appeler. Il m'a dit, écoute, tu fais ce que tu veux dans ton église, mais là, là, j'ai vu là, okay, dans son idée, si on est disciple, il y a quasiment un endroit géométrique. Fait que s'il fout le bordel ailleurs, dans une autre maison, dans l'église dont je suis le pasteur, dans sa tête à lui, il disait, dans le GPS, ça me dit que je ne suis pas dans ton église. Fait que là, j'ai dit, ah, pas l'air. Lui, il voit l'église comme étant un domaine public, puis sa vie comme étant son domaine. Et donc, ça cause un gros problème pour nous d'être un disciple dans ce domaine-là. OK. Le problème aussi avec la famille nord-américaine moderne, c'est que chacun prend soin des siens. Oui, mais il y en a plein qui n'ont pas de siens. Comme je vous parlais des ceux qui se font 15 ans qui n'ont pas eu de visite dans un foyer de personnes âgées. Imagine que tu vois la famille comme ça, que ça, c'est le top de la famille. Bien, tu vas prendre soin des ceux qui sont tout seuls dans ta famille, puis tu vas t'assurer que tes enfants aient une bonne carrière, qu'ils réussissent dans la vie. Puis ça, tu vas dire, bien là, je me suis occupé de ma famille. La famille, c'est un concept, la maisonnée est un concept qui s'est rétréci avec l'ère industrielle. Puis j'aimerais vous parler, prendre quelques minutes pour vous parler des études qui ont été faites récemment concernant la solitude. Il y a un article qui est paru dans la Gazette de Montréal, anglaise, que je traduis pour vous, le 16 mai 2018. Et l'article disait que la solitude est mauvaise pour la santé mentale. Il y a des recherches qui démontrent que la solitude présente des dangers aussi importants pour la santé physique que l'obésité ou la cigarette. L'ancien Surgeon General de la santé aux États-Unis, qui a écrit en 2017 dans un article que je n'ai pas mis à l'écran, là, mais il dit que la solitude est associée à une réduction de vie similaire à ceux qui fument 15 cigarettes par jour. Hein? La solitude est liée à la dépression, l'irritabilité et le suicide. Ceux qui souffrent de solitude ont plus de chances, et je lisais 26% plus de chances de mourir plus tôt et de faire une crise cardiaque. Il y a une étude qui a été faite sur, l'article parlait du degré de bonheur d'une personne, et on trouvait que les gens les plus heureux étaient ceux qui avaient plus de rapports sociaux et dont ceux dont les liens étaient plus solides. Puis les plus malheureux, c'était le contraire. Ici, j'ai écrit des choses dans le dos, fait que je suis plus capable de lire dans le dos. Il y a des études qui ont été faites dans des pénitenciers à sécurité maximale, des gens qui restent 22 heures sur 24 enfermés. Et on a trouvé chez eux l'hypersensibilité, la paranoïa, les hallucinations, les sautes d'humeur, la colère extrême, la dépression, le sommeil troublé, la difficulté à se concentrer, l'automutilation et le suicide. Les experts disent qu'on est en train de voir une épidémie de solitude. Un Canadien sur cinq expérimente de la solitude. Les individus les plus à risque dans notre société sont les vieillards à cause de leur mobilité réduite. Ils sont isolés, puis en plus, ils sont vraiment physiquement isolés. Et donc, il y a un taux de pointe, présentement, une étude en Angleterre, que ça fait comme un U. Donc, entre 15 puis 25 ans, il y a cette solitude-là. Ça fait un U durant la vie. Puis, un autre, c'est quand on devient vieillard ou personne âgée. Donc, il y a comme ça fait un U. Et ces nouvelles études-là sont nouvelles parce qu'on a toujours concentré surtout sur les personnes âgées. Je vais revenir un peu sur les ados après. Les causes principales de l'isolation, savez-vous qu'ici au Canada, 28% des maisons, il y a un seul habitant dedans. Donc, le tiers des habitations, il y a une seule personne, selon Statistique Canada 2017. Vivre seul ne cause pas la solitude. Par contre, chez ceux qui vivent seuls, on trouve plus de gens qui prennent des antidépresseurs et qui ont des comportements suicidaires. 40% des mariages finissent en divorce. Les couples ont moins d'enfants s'ils en ont. Fait que si on a divorce, on se trouve avec deux parents monoparentaux et des fois les enfants dans une même famille séparée où il y a un enfant qui voit ses parents en alternance. Une chose aussi qui cause, la technologie réduit de beaucoup les interactions humaines. Les réseaux sociaux, il y a des études qui démontrent, dans cet article on disait qu'il y a des études qui démontrent que la solitude est plus envahissante dans les cultures où les médias sociaux sont plus utilisés. Donc les gens, ils sont là, ils connectent avec plein de monde, mais en même temps, ils souffrent de solitude. Plus il y a des études qui font le rapprochement direct entre utiliser plus les médias sociaux et se sentir plus socialement isolé. Savez-vous qu'en Angleterre, en 2018, il y a eu la première ministre de la solitude qui a été nommée? parce que c'était un des fléaux qu'ils ont identifié. Puis l'article dit qu'on devrait peut-être commencer à y penser au Canada aussi. Donc, aujourd'hui, les gens n'ont peut-être pas les pieds sales parce qu'ils ont marché puis ils transpirent parce qu'ils ont été dans une chaleur torride. Mais on est dans un climat différent, un climat social où il y a beaucoup de solitude, beaucoup de souffrance. Puis on a besoin d'amitié. Puis moi, je vieillis, puis tu sais, à cette heure, tu sais, comme là, je me cherche justement un emploi, puis la place que je cherchais, c'était pas nécessairement la place qui me ferait me dépasser le plus en termes de programmation pour aller chercher les revenus que j'ai coupés. Puis c'était pas le salaire, on n'a pas parlé de salaire dans l'entrevue. Moi, ce que je cherchais, c'est une petite gang, pas trop grosse, pas une grosse boîte, parce qu'on est tous comme dans un poulailler, assis nous ont dit qu'il faut produire, mais l'esprit de famille un peu. La journée dans laquelle je suis allé, c'était une journée de l'Halloween. Une personne qui était déguisée en matelas, une autre en une femme en monsieur, avec parce qu'enfin, il fallait qu'ils se déguisent dans leur client, tu sais. Il y avait comme. C'était drôle, il y a un chien qui est venu me voir. Tu sais. Puis, je m'aperçois que plus je vieillis, moi, ben, en tout cas, depuis 2000, depuis que j'ai fondé l'Église, dans le fond, c'était en 2004 qu'on l'a fondé ensemble. Puis en 2009, déjà, j'étais là. Qu'est-ce que je vois? J'étais tout seul chez moi. Fait que là, j'avais des meetings, mais les autres, il y avait du travail. Tu sais. Les gens de l'Église, il y avait du travail. Fait que là, j'ai dit, je vais faire une journée le mardi, on va venir à l'église, puis on va faire un meeting de si, on va imprimer des flyers, puis tout ça. Puis tu sais, quand je regarde en arrière, là, c'est à cause de moi, tu sais, c'était pour me retrouver en famille. Puis je réalisais que ce que je vous parle, ben, en tant que votre pasteur, c'est quelque chose qui était un combo. Tu sais. Fait que c'est vraiment hot. Donc, pourtant, là, dans les années dans lesquelles on est, il y a quelqu'un qui m'a appelé dernièrement, puis il m'a dit « Hey, on est dans votre coin, tu sais. » Puis il venait de loin, tu sais. C'est cool, ça. Ils ont assez loué une chambre d'hôtel. Là. Je dis « C'est super, ça. » Je dis « Merci de m'avoir appelé. C'était vraiment cool, tu sais. » Puis on a raccroché. Tu sais, la personne, elle aurait aimé qu'on fasse de quoi, tu sais. Puis tu dis « Mais t'en regardes. » On va parler de ce qui nous empêche d'être hospitalier. Mon message, c'est créer des marges pour l'hospitalité. Hein? Donc, ce qu'on a besoin, on n'est pas toujours capable de l'offrir. On a besoin de. Hey, c'est toujours le fun de dire hey, on aimerait ça que tu sois à la table avec nous autres. On va avoir du bon temps. Puis, tu sais, ta présence est importante pour nous. T'sais, on a tous besoin de ça, mais on n'est pas toujours nous-mêmes capables de l'offrir. On va parler de ça tantôt. Ça, c'est une saison de notre vie, nous autres. On va en reparler tantôt. Donc, la solution pour le monde n'est pas la famille au sens moderne du terme. Donc, présentement, la solution, là, c'est pas les familles super, là, qu'ils prennent soin des leurs, puis qu'ils vont voir la grand-maman chaque dimanche. Ou personne. Ça, c'est pas la solution pour le monde. La solution pour le monde, c'est la famille élargie. C'est la famille chrétienne. Pourquoi? Parce qu'une famille qui s'occupe des siens, elle s'occupe des siens. Elle s'occupe pas du clochard, du vieillard, puis de l'orphelin. La Bible a dit que la religion pure et sans tache, c'est celle qui. Jacques dit que la religion pure et sans tache, c'est la religion qui prend soin des orphelins et des veuves et qui les visite dans leurs afflictions. Donc, il y a cette idée-là d'être plus ouvert un petit peu qu'une famille hermétique du temps moderne. Okay? Donc, c'est dire, hey, il y a de la place pour quelqu'un d'autre ici-là. Je peux montrer à mes enfants comment prendre soin d'une personne âgée qui n'est pas sa grand-mère nécessairement, etc. Donc, la solution pour un monde qui se meurt, un monde sans cœur, c'est l'élargissement de la famille dans son concept. Et le concept, c'est l'Église, que tous ceux qui veulent peuvent venir à la table du Seigneur. Jésus a dit que la loyauté envers la famille pouvait causer un problème. Vous rappelez-vous des moments où est-ce qu'être loyal envers sa famille causait un problème? Dans ce que Jésus voulait faire. Il a dit, si quelqu'un veut être mon disciple, s'il aime plus son père, sa mère que moi, il n'est pas digne de moi. Donc, pour Dieu, à un moment donné, Dieu va nous amener à un endroit où il va dire, c'est pas juste ta famille, c'est un petit peu plus loin. Si ta mère ne veut pas, il fallait pareil. C'est un peu ça que ça dit. Là. C'est un peu ça. C'est les jeunes disent, hey, tu ne vas pas suivre ce fou-là. C'est quand que Jésus il disait, venez, suivez-moi, les gens, les parents disaient, hey, c'est un sorcier, ce gars-là, suivez-moi, blablabla. Fait que là, qu'est-ce qu'ils faisaient, les gens? S'ils écoutaient leur père, leur mère, ils n'étaient pas dignes du Seigneur Jésus de le suivre. Okay? C'est ça que ça voulait dire. Mais ailleurs aussi, il y a d'autres loyautés. Tu allais lever la main? Ben oui, Marie, elle vient voir Jésus, puis elle dit, arrêtez tout ce que vous faites, là. Je suis sa mère. Puis les autres, c'est ses frères. Fait que laissez-nous passer, on veut rentrer. T'sais? Puis là, Jésus est en train d'enseigner. Qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit, celui qui est vraiment mon père, c'est qui ma mère? C'est qui est ma mère? Qui sont mes frères? Puis ça a été quoi la réponse? Oui, c'est celui qui écoute la parole puis qui la met en pratique. Fait que là, ça a été tout un coup de batte dans le fond de Marie. T'sais. Puis là, Marie, en passant, la semaine prochaine, je prends soin d'elle. Okay? Fait que évitez vos amis, là, je vais être doux avec Marie. Okay? Mais ça a été dur pour Marie cette journée-là. Mais qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Hey, il n'y a pas juste la famille. Il a aussi écouté la parole du Père qui est dans les cieux. Puis Jésus est en train de nous parler d'une plus grande famille. D'une autre famille. Et cette famille-là va durer l'éternité. La table en haut, là, papa, maman, frère, sœur, ça n'existera plus. Mais frère dans le Seigneur, ça va avoir encore existé. Fait que si tu as accepté le Seigneur, puis tu fais partie de ce banquet-là, tu fais partie de la nouvelle famille que Dieu est en train de se créer. T'sais. Fait qu'il y a quelque chose que plus que papa, maman, frère, sœur. Il y a la grande famille. Okay? Puis cette famille-là, elle est meilleure que ma famille sur la terre parce que ma famille, moi, je prends soin des miens. Puis souvent, c'est comme, OK, c'est mon refuge. C'est comme mon genre de... Le monde, c'est un monde de fous. Puis là, on se souhaite juste pour regarder la TV puis juste être juste nous autres. Il y a comme cette idée. Mais c'est parfait. On a besoin d'un refuge dans le monde pareil. Mais la vraie famille, c'est celle qui dit, hey, on aurait de la place pour un étranger, pour... quelqu'un que je ne connais quasiment pas à mon travail pour venir manger à la maison, par exemple. Je vous pose la question, pourquoi est-ce qu'on se bute à des refus quand on invite les gens à venir à un événement comme la semaine prochaine? Il y en a d'autres qui paieraient jusqu'à 200$ pour être là. Hein? On entend ça matin. Mais il y en a d'autres qui disent, si tu penses, je vais venir dans ta patente. Pourquoi vous pensez qu'on se bute à cette idéologie-là ici au Québec? Pourquoi je viendrais dans ta patente? Les gens sont attachés à l'argent? Peut-être. C'est des pistes. Pourquoi les gens, ils viendraient tout de suite à souper à la maison chez toi, mais si tu les invites à l'église, ils vont dire, pourquoi je viendrais à ta patente? Dan?
Le monde se sont venus
à un
bien-être chez eux.
Oui. Donc, il y a un bien-être chez soi, mais il y a une peur de perdre dans la communauté. OK. Hein? Ils ont peut-être peur d'aimer ça. Mm-hmm. Mais, Julien, le jugement, un jugement de ce qu'on ne connaît pas, la peur de l'étrange. On est là! On est tous là avec nos petites familles, puis on a peur de l'étranger. On est un peu comme ça au Québec. On veut garder notre langue québécoise, on veut développer la communauté, mais avec ceux qui nous ressemblent et nous reconnaissent. Quand il y en a un qui est différent de nous, c'est comme... Fait qu'on est à l'aise dans ce qui nous ressemble. OK. Super. Mais là, où est-ce que je veux amener? Dans mon dernier message, là, 11h30, j'aurais aimé peut-être faire un petit partage, mais on va finir avec quand même un remue-ménage. La question que je vais vous poser, en quelques instants, c'est qu'est-ce qui fait qu'on est réticent à l'étranger, autant québécois que chrétien. Qu'est-ce qui fait qu'on est réticent à l'étranger? Mais avant, regardez cette idée-là. Ça, c'est dans mon dernier message. J'ai dit qu'un disciple, c'est quelqu'un qui passe de « il n'y a pas d'être suprême » à « il commence à moins 6 ». Commence à considérer que peut-être qu'il y aurait un être suprême. Jusqu'à j'administre pour Dieu, je sers dans une église, puis moi aussi je fais des disciples. Okay? Il part de moins 6 à plus 6, on pourrait dire. Okay? Si Jésus nous a dit allez par tout le monde, puis faites des disciples, il n'a pas dit allez par tout le monde. Il a dit en allant, au travers le monde. Faites des disciples. Aide ton mécano, ton coiffeur, ton voisin, quand tu as des interrelations avec. Aide-le à passer de peut-être bien qu'il y en aurait un, tu prends. Puis à un moment, tu vas y jaser, puis il réalise qu'il a entendu l'Évangile, on est pécheur, on a besoin de pardonner. Puis au travers des années, à un moment donné, tu l'amènes là, mais tu l'amènes comment? Quand est-ce que tu vas faire ça? Quand tu vas l'inviter? Là, présentement, on a une vague, c'est Noël. À part qu'on a une autre vague, c'est pas. Puis il y en a des gens qui disent, bien, regarde, je vais aller voir mes amis, je vais aller voir Dieu. Tu sais? Parce qu'au Québec, on va à la messe de Noël. Mais c'est encore ça. Mais qu'est-ce qui fait que tu vas avoir une relation avec la personne sur la base de Dieu, puis tu vas l'aider à avoir des discussions à un moment donné, puis tu vas l'aider à comprendre des choses, puis faire de lui un disciple sans que lui sache que tu es en train de faire de disciple avec lui. Tu es juste en train de jaser. Ça va se passer dans l'hospitalité. Ça va se passer, pas nécessairement autour de ta table, mais autour du fait que tu as du temps pour l'inclure dans ton amitié. Pour jaser. Okay? Fait que, je vous amène ça juste pour dire, regarde, si on n'a pas... OK, là, maintenant, on finit avec ça. Quels sont les... Pourquoi on est réticent vers l'étranger puis qu'on n'a pas de place pour l'hospitalité? J'aime pas les gens. OK, oui, j'aime pas les gens. Hein? Donc, j'aime pas le monde. On peut arrêter l'enregistrement ici. Ça va être un petit brainstorming autour de la table. En même temps, mais ça va respecter le temps. Le temps. Hein? C'est la Sainte-Seine aussi, hein?
Ce message vous a fait du bien? Vous en voulez plus? L'Église Grâce et Vérité vous offre un site web sur lequel vous trouverez des messages en audio, vidéo et bien plus. Merci de nous honorer en les partageant sur les médias sociaux. Vous pouvez aussi laisser vos commentaires sur notre page Facebook ainsi que sur notre site web au www.graceetverite.org.